Je les ai lues, écoutées, aimées, elles nous ont construites, bouleversées, changées. Elles sont toutes des femmes d'exception et c'est leur vie que je vais vous raconter.
Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, sans avoir une vocation précise, ou d'écrivain, ou de peintre, ou de scientifique, ou de n'importe quoi, ont envie de se ménager une certaine part de liberté et de solitude. Et on dit toujours que la solitude pour les femmes, c'est si triste, et que le soir, une femme seule pleure sur ses petits œufs sur le plat. Mais je crois qu'elle est beaucoup plus contente quand elle a un moment pour se recueillir, pour se reprendre après une journée de travail, que si elle est obligée de servir 4 mômes et un mari, et qui ne lui laisse même pas le temps presque de manger. Par conséquent, je crois que c'est une option qu'il faut proposer à toutes les femmes. Je ne dis pas de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, mais de réserver toujours une certaine zone de liberté, de solitude, que ce soit pour rêver, pour lire, pour écouter de la musique, pour penser, pour n'importe quoi. Mais enfin, une zone de solitude et de liberté.
J'avais les mains moites et je tremblais lorsqu'avec mon amie Martine, nous avons poussé pour la première fois la porte tambour d'un célèbre café de Saint-Germain-des-Prés où l'on avait lu dans un journal qu'elle passait ses matinées. Oui, Simone de Beauvoir était bien là, à l'encoignure des deux banquettes, les cheveux tirés en arrière, la veste boutonnée jusqu'en haut, impeccable, les yeux baissés sur des feuilles de papier qu'elle corrigeait. Nous nous sommes assises loin d'elle, intimidée mais néanmoins curieuse de l'apercevoir et peut-être d'avoir la témérité d'aller lui parler. Nous n'avons pas osé. Simone de Beauvoir, le goût de la liberté. C'était au tout début des années 70. Nous débarquions alors d'un lycée de province avec notre bac philo en poche. Grâce à notre prof, nous connaissions l'existentialisme, son importance dans la définition même de ce que veut dire vivre. Nous connaissions aussi la force, la vitalité, l'énergie, la radicalité de la pensée de Simone de Beauvoir, dont nous avions étudié deux textes, La morale de l'ambiguïté et Le deuxième sexe. Bien sûr, on avait lu aussi L'être et le néant, et Jean-Paul Sartre, à l'époque figure majeure et omniprésente de l'intellectuel engagé, nous impressionnait. Mais c'était elle que nous avions choisie, à la fois comme modèle, comme muse, comme inspiratrice. Simone de Beauvoir incarnait nos attentes, nos espoirs et nous donnait le goût de vivre comme elle, libre, avec ses amours contingentes, écrivant tout le temps, éveillée au bruit du monde, soucieuse de son bonheur et engagée dans le désir de convaincre que la liberté, toujours et en toutes circonstances, était notre bien le plus précieux. Étions-nous naïves? Sûrement un peu. Trop impressionnables? Sûrement également. Mais 50 ans plus tard, je persiste et signe. Je suis toujours fan de Simone et je ne suis pas la seule. Des jeunes générations de féministes la découvrent et épuisent des manières de penser et de se révolter. Toujours actuelle, la romancière, l'essayiste, la philosophe, la journaliste, la conférencière, la polémiste, la dramaturge, la voyageuse, la grande amoureuse. Oui, elle fut tout cela à la fois, continue à être traduite dans le monde entier et ses livres enseignés. Oui, elle demeure toujours d'une brûlante actualité, car depuis sa mort en 1986, de nouveaux textes et correspondances sont publiés grâce à son exécutrice testamentaire et fille adoptive, Sylvie Lebon, qui dévoile de nouveaux pans de sa personnalité, de nouvelles amours et de nouveaux concepts philosophiques et spirituels.
J'ai toujours voulu avoir une vie, je dirais, indépendante, c'est-à-dire d'une part gagner ma vie moi-même, ce que j'ai fait en passant les examens et en devenant professeur, et ensuite avoir une activité qui vraiment me tient à cœur. Et ça, c'était de devenir écrivain. J'ai toujours voulu ça, même très très jeune. Et c'était bien plus important pour moi que toute espèce d'autre option.
Comment évoquer sa vie, alors même que ce fut son grand projet, se raconter ? Autrice d'une immense œuvre autobiographique, composée notamment des mémoires d'une jeune fille rangée, La force des choses, Tout compte fait, elle n'a eu de cesse que de donner sa propre version de son existence. Elle disait d'ailleurs volontiers qu'une journée sans au moins 3 heures d'écriture était une très mauvaise journée. Elle fut aussi une grande épistolière. Et quand elle aimait un homme, que ce soit Jean-Paul Sartre, l'écrivain, Jacques-Laurent Bost, le journaliste, Claude Lanzmann, l'auteur de Shoah, Nelson Algren, l'écrivain américain, ou une femme, Olga Kosakiewicz, jeune fille mineure polonaise, Bianca Bienenfeld, l'une de ses élèves âgées de 16 ans et d'autres, elle leur racontait tout ce qu'elle ressentait. Son œuvre, immense et prolixe, se compose aussi de romans, entre autres « Le sang des autres »,« L'invité », »,« Les mandarins », dans lesquels affleurent toujours des situations, des personnages, des sentiments inspirés de faits réels. Je n'aurai donc pas l'outrecuidance de tenter de la décrire, elle qui nous explique à longueur de page qu'elle est insaisissable, y compris à ses propres yeux, que toute existence est mouvante, métissée, modifiée par les circonstances, en devenir tout le temps. En revanche, ce que je peux dire, c'est mon plaisir à la relire, mon admiration pour sa radicalité et son obstination par son travail à atteindre ses propres buts. Elle force le respect aussi par la confiance qu'elle a en elle-même. Croire en soi est un cadeau du ciel et une force considérable, surtout quand on est une fille. Cela lui permettra sans cesse d'avancer intellectuellement et amoureusement. Mais certains aspects de sa vie questionnent aussi. Son attitude pendant la guerre, elle fut passive, attentiste, et signa même le certificat d'arianité requis par les autorités d'occupation pour continuer à enseigner. Son aveuglement envers le communisme et le maoïsme, même si elle ne fut pas la seule à se perdre idéologiquement parmi les intellectuels de l'époque. Certaines de ses affirmations étonnent parfois et paraissent péremptoires. Par exemple, son refus de la maternité, hautement revendiqué dans le deuxième sexe comme condition d'une véritable liberté pour les femmes. De telles allégations me paraissent un peu datées aujourd'hui et manquées de nuances. Mais Beauvoir écrivait en un temps où les femmes ne pouvaient pas choisir.
Quand j'étais toute petite, que j'avais 7-8 ans, j'aimais énormément lire. Et alors, ça m'amusait d'imiter les livres que je lisais. Et par exemple, j'avais écrit une certaine famille Cornichon qui imitait la famille Fenouillard et que d'ailleurs, très gentiment, mes parents avaient fait relier dans un véritable livre. Une tante avait tout recopié et c'était sur des pages blanches dans un livre.
Née à Paris le 9 janvier 1908, Simone de Beauvoir a de la chance. D'abord, de naître dans une famille unie, aimante, bourgeoise, où elle est attendue. Les fées se sont penchées sur son berceau. Sa mère l'a désirée et elle sera une enfant choyée et par son père et par sa mère, ensuite admirée par sa sœur cadette, Hélène. Élevée au cours désir, ça ne s'invente pas, elle reçoit une éducation catholique à laquelle elle adhérera jusqu'à la perte de sa croyance en Dieu, constitutive, selon elle, de son goût pour la liberté. Dans la construction de sa personnalité, l'amitié jouera un rôle considérable. Élisabeth, dite Zaza, qu'elle connaît depuis la haute enfance, deviendra son amie, son amour, son inséparable, son double, jusqu'à sa mort tragique à l'âge de 21 ans. Elle ne l'oubliera jamais. Simone de Beauvoir a la chance d'être intelligente, très travailleuse, douée, très douée, et de vivre une époque où les filles peuvent faire des études et entrer à l'université en passant des concours prestigieux. Ça n'a pas toujours été le cas. L'existence, c'est un projet qu'on se donne à soi-même et rien n'est joué d'avance. Cela, c'est un des grands mantras de la jeune Beauvoir qui va réfléchir grâce à ses lectures philosophiques au sens de sa liberté et à l'importance de ses propres choix. Elle pense tout le temps, Simone. Ça circule à toute vitesse dans sa tête, ça tambourine trop fort quelquefois à l'intérieur. C'est pour cela qu'elle écrit, pour mettre en forme ses idées. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas, elle veut être écrivain. Pour qu'on s'intéresse à elle, elle sait qu'elle a des choses à dire. Étrange certitude que cette richesse que je ressens en moi sera reçue, que je dirai des mots qui seront entendus, que cette vie sera une source où d'autres puiseront, confie-t-elle à son journal dès l'adolescence. Après des études brillantes en littérature et mathématiques, elle prépare l'agrégation de philo. Pour elle, la voie royale pour se connaître soi-même, c'est la philosophie. Simone est sérieuse, très sérieuse, mais aussi joyeuse. Elle aime le monde de la nuit, elle passe des soirées avec sa sœur, à boire avec des inconnus et à écouter du jazz. Elle a des amis et des amitiés amoureuses avant de rencontrer Jean-Paul Sartre dans la cour de Normale Sup, où une bande de copains qui viennent de réussir la première partie de l'agrégation prépare l'oral. Ce n'est pas une oie blanche qui rencontre ce garçon aux grosses lunettes et à l'air malicieux. Sartre lui plaît parce qu'il sait la faire rire. Comme elle, il aime les westerns et chante à la perfection des airs de jazz. Sartre la trouve belle, mais très mal habillée. Très vite, ils vont délaisser les copains et passer leurs journées ensemble à refaire le monde. Au concours de l'agrégation, Sartre sera premier, Beauvoir seconde. Le soir même, ils fêtent l'événement en dansant, en chantant, en buvant. Entre eux, tout est déjà noué. Ce sera un coup de foudre réciproque qui durera toute une vie, malgré les orages et les fortes intempéries. Ce ne sera qu'après l'été qu'ils vont pouvoir ajouter à la tête et au cœur le corps. Tous deux s'accordent à refuser l'institution du mariage. Elle, elle vit dans une chambre chez une tante, lui à la cité universitaire. Ils vivront leur amour en gardant leur vie propre. Entre eux, ils se jureront la fidélité d'un amour nécessaire sans s'interdire de vivre des amours contingentes. Sartre lui propose, pour éviter la routine du quotidien, de se consacrer l'un à l'autre pendant 2 ans, puis de se séparer pour mieux se retrouver 2 ans plus tard. Ils se retrouvent, puis se séparent à nouveau et se retrouvent une fois encore, 2 ans après. Ces 2 ans deviendront 51 ans et ils ne se sépareront jamais. Ils se vouvoieront toujours. Elle l'appelait Sartre, jamais Jean-Paul. Lui, le castor, jamais Simone. Elle a 3 ans de moins que lui. Elle le considère comme un génie, mais se sent son égal. Elle dira jusqu'à ses derniers jours que son histoire avec lui est ce qu'elle a vécu de plus important. Lui répétera qu'elle l'a inspiré, encouragé et qu'il lui doit tout. Cette relation, coup de foudre passionnel autant qu'intellectuel, qui se métamorphose rapidement en amitié amoureuse puis en complicité profonde que rien ne réussit à entamer, ni ses amours à elle, ni ses coups de foudre à lui, force l'admiration. Mais elle pose quelques questions. Les jeunes femmes que séduisait Beauvoir étaient présentées à Jean-Paul et la plupart d'entre elles ont noué des relations avec lui. L'invité, pour paraphraser le titre d'un roman de Beauvoir, raconte justement le trio formé par Sartre, Beauvoir et Olga Kozakiewicz. Celle-ci était-elle véritablement à égalité avec ce couple soudé dans cette vision de l'amour nécessaire? Certaines s'en sont plaintes des décennies plus tard. D'autres n'ont jamais su, comme Olga, justement, que Beauvoir avait eu pendant 14 ans une histoire d'amour avec celui qui deviendra son mari. Les jeunes femmes invitées dans leur carrousel amoureux même si elles étaient consentantes, disposaient-elles de la même liberté que celle de ce couple qui avait besoin sans cesse de s'en nourrir. La force du désir de Beauvoir comme carburant de son existence, son désir de travail et aussi son désir physique, désir de randonner des journées entières, désir de nager jusqu'à l'horizon, désir de séduire, de faire l'amour, Beauvoir va vite, toujours très vite, même quand elle marche dans la rue, Sartre n'arrive pas toujours à suivre, mais c'est cela qui lui plaît, cette voracité évidente, naturelle. Son projet, être heureuse et écrire. Dans toute mon existence, je n'ai rencontré personne qui fût aussi douée que moi pour le bonheur, personne non plus qui s'y acharna avec tant d'opiniâtreté, avoue-t-elle dans la force de l'âge. Violente, elle l'est, et le reconnaît. D'ailleurs, quand elle était petite, elle faisait des crises terribles où elle se roulait par terre. Les crises vont continuer, ce seront plutôt des crises d'angoisse, car elle a du mal à se faire publier. Son premier texte, présenté par Sartre à des éditeurs, intitulé « Primauté du spirituel », sera refusé par plusieurs d'entre eux. Elle décide alors que pour devenir écrivain, désormais, elle partira d'elle-même et non de thèse intellectuelle. Écrire la vie, c'est-à-dire écrire sa vie. La guerre va modifier leurs existences. Simone en sera accablée. Ses angoisses se lisent dans son journal, mais elle ne s'engagera pas et continuera à enseigner la philosophie. Sartre part à la guerre. Jacques-Laurent Bost, l'ami de Sartre devenu l'amant de Simone depuis 1938, y sera blessé. Leur ami, Paul Nizan, meurt. En mars 1941, Sartre est libéré. Il crée avec elle et quelques amis philosophes un groupe, Socialisme et Liberté, qui veut entrer en résistance sans y parvenir. Attentiste, Simone le fut jusqu'en janvier 1944, date à laquelle elle suit les recommandations du Comité national des écrivains anti-nazis et quitte l'enseignement pour devenir metteuse en ondes à la radio pendant 9 mois. À la libération, Camus demande à Sartre de faire des reportages pour son journal Combat. C'est Beauvoir qui arpente la capitale, qui écrit, mais c'est Sartre qui signe les papiers. Lui ne fera jamais l'inverse. C'est avec la publication de son roman L'Invité, en été 1943, que commence véritablement la vie d'écrivain de Simone. Librement inspirée du trio amoureux qu'elle forme avec Sartre et Olga, L'Invité porte en exergue cette citation de Hegel « Chaque conscience poursuit la mort de l'autre ». Le thème en est la jalousie, pas la jalousie amoureuse et sexuelle, mais la jalousie existentielle qui vous dégrade et vous empêche de vivre. Le tout écrit sur le ton du polar. Le livre marche et se vend à plus de 20 000 exemplaires, ce qui est plus qu'honorable, mais pas grand-chose au regard du succès du texte de Sartre, « L'être et le néant », publié simultanément et dédié à Beauvoir. Ce texte est considéré comme le premier ouvrage de l'existentialisme, exploration de la liberté humaine, de la responsabilité et de l'action. Beauvoir se réjouit du succès de Sartre et s'associe pleinement à sa vision philosophique de l'existence. Elle n'est pas sa suiveuse, sa groupie, mais son égale intellectuellement. Elle discute, amende, critique tout ce qu'il écrit et lui ne publie pas une ligne qui ne soit approuvée par elle. Cela n'empêche pas les critiques de pleuvoir sur cette fille qu'on appelle la grande Sartreuse ou Notre-Dame de Sartre pour mieux l'abaisser. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer la starification du couple Beauvoir-Sartre devenu les premières rockstars du monde intello. Les journaux les suivent partout, le jour, la nuit, et caricaturent en même temps la profondeur du courant existentialiste qui incarne aux yeux du grand public un nouveau goût de vivre, une nouvelle définition de l'existence. Mais la guerre a profondément modifié la personnalité de Beauvoir, et désormais, elle répudie son individualisme apolitique pour, comme elle le dit, être et servir. Ce qui se concrétisera, notamment par la création avec Sartre, de la revue « Les temps modernes » dès 1945, revue dédiée à penser l'événement, qu'il soit politique ou idéologique. Elle joue un rôle stratégique dans le cœur battant de la mouvance intellectuelle, fait partie du comité de rédaction, avec notamment Jacques-Laurent Bost, alors son amant, Claude Lanzmann, futur amant, Maurice Merleau-Ponty, Michel Léris, Raymond Aron et bien d'autres. Elle lit les manuscrits, publie des articles et est aussi chargée de la mise en page. La revue incarne les prises de position d'une gauche non alignée et dénoncera très tôt la guerre en Indochine et les massacres de Madagascar. Quand elle ne travaille pas à la revue qui lui ouvrira une fenêtre sur l'international, elle écrit. Entre 1945 et 1947, pas moins de 7 publications. Des romans, des pièces de théâtre, des essais. Le dernier s'intitule « Morale de l'ambiguïté ». Comme elle l'expliquera plus tard dans « La force des choses », le fait est que je suis une femme écrivain. Une femme écrivain, ce n'est pas une femme d'intérieur qui écrit, mais quelqu'un dont toute l'existence est commandée par l'écriture. Traduite en plusieurs langues, elle est demandée dans le monde entier pour expliquer sa pensée. Elle part aux États-Unis en 1947 et déjà note dans son journal que, dans l'avion, elle a la certitude qu'il va, là-bas, lui arriver quelque chose d'important. Elle n'a pas tort. À Chicago, elle rencontre un homme, écrivain comme elle, amoureux de la vie comme elle, amoureux de l'amour comme elle. Coup de foudre physique, intellectuel, comme en atteste sa correspondance. Elle est mordue, lui aussi. Cette relation passionnelle s'accompagne d'une intensité sexuelle qui la surprend et lui donne une énergie considérable. Pendant plusieurs années, elle fera de nombreux voyages transatlantiques pour le retrouver. Lui aussi viendra habiter chez elle à Paris. Algren lui demandera de l'épouser et de vivre à Chicago. Elle refusera. Le castor n'est pas une femme amoureuse aliénée qui oublie tout pour un homme, si adoré soit-il. Le castor n'a pas non plus oublié sa promesse de ne jamais quitter Sartre, même si leur relation amoureuse s'émousse et se distend, Sartre ayant de nombreuses amantes. Elle ne réussira pas à persuader Algren et choisira de continuer à être ce qu'elle avait décidé d'être, une femme écrivain. Je ne pourrai pas vivre uniquement de bonheur et d'amour. Je ne pourrai renoncer à écrire et travailler dans le seul lieu où mes livres et mon travail ont un sens, lui explique-t-elle. Algren rompt en 1950, même s'ils continueront à correspondre pendant 13 ans et redeviendront amants en 1960, lorsqu'Algren reviendra en Europe. Parallèlement à cette relation passionnelle avec Algren, s'élabore son nouveau chantier d'écriture qui la fera connaître dans le monde entier. Une vie, dit Beauvoir, c'est la reprise d'un destin par la liberté. Comment penser sa propre liberté? A-t-elle des limites? Beauvoir cherche un sujet. Roman, essai, elle ne sait pas encore. Elle s'en ouvre à Sartre, qui lui fait observer que s'ils sont égaux, ils sont différents. Beauvoir ne voit pas. Oui, elle est de sexe féminin, mais n'a jamais souffert du fait d'être une femme. Ah bon? Et même pas lors de votre éducation, rétorque Sartre. C'est là que commence pour elle une longue introspection et une longue recherche à travers le temps et les civilisations pour dénoncer l'injustice de l'inégalité entre les sexes. La femme n'est pas l'égale de l'homme en raison d'un soi-disant destin biologique que l'homme lui a assigné depuis l'aube de l'humanité. Une femme est ce qu'un homme n'est pas. L'homme est la norme par quoi se définit l'humain. Écrit en 2 ans, dédié à Bost et publié en 1949, le deuxième sexe est divisé en 2 parties. Les faits et les mythes, l'expérience vécue.
Eh bien, Simone de Beauvoir, mon Dieu, je voudrais vous demander une question qui s'impose tout de suite. Le gros livre, combien a-t-il de pages?
Je crois que le premier a à peu près 400 et le second quelque chose comme 600 pages.
Bon, par conséquent, nous obtenons un total de plus de 1000 pages. Je voudrais vous demander si c'est le résultat d'une pensée concentrée sur ce sujet depuis des années, si de tout temps vous avez désiré écrire sur cette question.
Non. Au début, je ne pensais pas du tout m'occuper jamais d'une manière spéciale des problèmes du féminisme, parce qu'il me semblait, et d'ailleurs il me semble encore aujourd'hui, que ces problèmes sont subordonnés à des problèmes sociaux beaucoup plus vastes. C'est seulement dans ces dernières années que ce désir m'est venu, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Il s'agissait donc de faire une espèce de mise au point, d'essayer de systématiser un peu tout ce fatras d'opinions qui sont répandues sur les femmes et d'essayer de dégager à travers tout cela ce qui, à mes yeux, est la vérité. Ce n'est pas du tout essayer de faire quelque chose de nouveau ou d'extraordinaire ou d'étonnant, oui. Et bien plutôt quelque chose de vrai.
Elle admirait tant les vedettes qu'elle voulut les imiter. Des cheveux à la Rita,
des lèvres à la Sophia,
des yeux Martine Carole, une poitrine Lolo Brigida.
Alors ça m'a amené à étudier un peu le monde tel qu'il est décrit, le monde féminin tel qu'il est décrit par les hommes. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai commencé par les mythes, voir qu'est-ce que c'était que la femme dans les mythes des hommes, la physiologie de la femme, et puis son histoire, et puis de là je suis passée alors ensuite à des situations concrètes.
C'est un livre difficile, le fruit d'un travail considérable, ramené souvent soit à son titre, soit à cette phrase en exergue du second volume, « On ne naît pas femme, on le devient », tirée d'une phrase d'Érasme, « On ne naît pas homme, on le devient ». Le titre renvoie à l'idée d'une hiérarchie, d'une domination au nom d'une essence introuvable et indémontrable. Ce n'est donc pas la femme, en tant que telle qui se voit et se veut dominer parce qu'elle est femme, mais un système social basé sur le patriarcat qui fait qu'elle est dominée. Si l'on change les structures, ainsi que le regard, cette soumission pourrait voler en éclats, l'égalité entre les sexes ne plus être un vœu, mais une réalité dans une société où les hommes, souffrant aussi de cette domination, pourraient retrouver un sens à l'amour et être séduits par l'égalité. Le dernier mot de ce livre est « fraternité » et non pas « révolution ». Simone de Beauvoir est radicalement féministe, dans la mesure où elle ne croit pas à une essence féminine, à une vocation de femme, à devenir épouse et mère, à un éternel féminin. La différence entre une femme et un homme n'est pas une donnée, mais un fait culturel, donc dépendant de circonstances extérieures, donc pouvant être abolie. C'est à ce combat qu'elle s'attelle intellectuellement et concrètement. Cette soi-disant infériorité de la femme est pensée et mythifiée en même temps qu'elle est vécue et pratiquée. C'est à cette injustice profonde qu'il faut s'attaquer. Ce faisant, elle lance un pavé dans la mare et elle est la première à le faire en examinant la manière dont le corps des femmes est instrumentalisé. Beauvoir parle des règles, Beauvoir parle de la ménopause, Beauvoir parle des violences sexuelles faites aux femmes, Beauvoir parle de jouissance féminine, de lesbianisme, du clitoris. Le livre, dès sa sortie, précédé par des extraits dans les temps modernes, se vend tout de suite comme des petits pains, mais le succès s'accompagne de scandales. François Mauriac, qu'on connaît d'habitude plus inspiré, dira à un collaborateur des temps modernes tout savoir désormais sur le vagin de sa patronne. Camus même lui reproche d'avoir ridiculisé le mal français. Certains libraires refusent de le vendre, le Vatican le met à l'index. On la traite de nymphomane, de lesbienne, de priapique, de sang-froid avorté et même de mère clandestine. On lui offre de guérir de sa frigidité et d'assouvir ses appétits de goule. Toute la droite lui tombe dessus. Les communistes, eux, se moquent des états d'âme d'une bourgeoise qui ne peut intéresser les ouvrières de Billancourt. Elle semble peu affectée, tant son combat lui importe. La moitié de l'humanité depuis la nuit des temps vit dans la dépendance, la secondarité. Il ne faut plus l'accepter. 20 ans plus tard, dans La force des choses, elle conclura « Mal lu, mal compris, il agitait les esprits. Tout compte fait, c'est peut-être de tous mes livres celui qui m'a apporté le plus de satisfaction. Si on me demande comment je le juge aujourd'hui, je réponds « Je suis pour ». Elle continue à voyager dans le monde entier avec Sartre, Italie, Espagne, Cuba, Chine, ou sans lui, Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient, et à faire des conférences, tandis qu'elle enchaîne les histoires d'amour. Après Boss, puis Nelson Algren, l'amant américain, ce sera Claude Lanzmann dès 1947. Ce qui est fascinant chez elle, c'est cet appétit charnel qui alimente sa vivacité intellectuelle et vice-versa. Porosité extrême du corps et de l'esprit. Sensualité décuplée, liberté de création augmentée.
Fidèle à un demi-siècle de tradition littéraire, les Goncourt se sont mis à table pour décerner leur prix annuel. Les 9 parmi lesquels Francis Carcot, Roland Dorgelès, Pierre Macorlan, Philippe Heria et Armand Salacrou ont couronné les mandarins de Simone de Beauvoir qui demeura invisible.
En 1954, Simone de Beauvoir publie Les mandarins. Le roman raconte sous forme indirecte ses espoirs amoureux et ses interrogations politiques. Sa rédaction lui a pris 4 ans. C'est un livre assez cru et toujours moderne. La recherche de la vérité sert de fil conducteur à ce groupe d'intellectuels pris dans les désillusions de l'après-guerre où les idéaux de fraternité de la résistance s'effritent lentement et où les histoires d'amour se terminent souvent mal. Pas besoin d'être très futé pour deviner que sous le personnage d'Anne se cache Simone, sous celui d'Henri Sartre et sous celui de Lewis, Nelson Algren, à qui le livre est d'ailleurs dédié. Les mandarins obtiendra le prix Goncourt et assurera un certain confort financier à celle qui vit depuis plus de 20 ans dans des chambres d'hôtel. Elle s'installera dans un appartement non loin de Notre-Dame. Beauvoir est de plus en plus engagée politiquement. C'est en lisant, dans les temps modernes, des témoignages de tortures perpétrées dès le début de la guerre d'Algérie qu'elle décide de lutter contre ce qu'on nomme alors les événements d'Algérie. Elle milite activement et la revue qui soutient les combattants algériens est plusieurs fois saisie. Elle se rend à des procès avec Sartre pour témoigner en faveur de personnes qui ont rejoint la lutte armée. Elle est informée par Gisèle Halimi du cas de Djamila Boupacha, militante FLN, violée lors de ses interrogatoires par des militaires français. Elle prend parti dans un article publié en une du journal Le Monde, la défend au sein d'un comité de soutien et co-signe avec Gisèle Halimi un livre qui lui est consacré. Elle s'associe au Manifeste des 121, tribune signée par des intellectuels qui défend le droit d'insoumission pour les appelés d'Algérie, et elle encourage sa publication dans les temps modernes. Immédiatement, la revue est censurée et ses signataires inculpés. Sartre et Beauvoir sont menacés, l'appartement de Sartre plastiqué, Beauvoir aussi doit déménager. Elle soutiendra toutes les initiatives pour l'indépendance de l'Algérie et le jour de la fête de l'indépendance du pays, elle notera dans La force des choses « Depuis 7 ans, nous souhaitions cette victoire. Elle arrivait trop tard pour nous consoler du prix qu'elle avait coûté. » Simone de Beauvoir a noué avec ses lectrices et ses lecteurs une sorte de pacte autobiographique. Reprenant les idées de Montaigne, elle entreprend d'abord avec les mémoires d'une jeune fille rangée, puis avec La force des choses, une nouvelle forme de littérature. Ni confession, ni justification, ces textes se lisent aujourd'hui avec émotion, mais ils constituent aussi des documents historiques pour comprendre l'époque. La force des choses, c'est aussi l'âge qui vient, l'entrée dans la vieillesse, une forme de désenchantement, la présence de l'idée de la mort qui surgit. Chacun veut être et ne peut qu'exister. Surgit alors, dans cette avalanche de textes, un livre que je considère comme un chef-d'œuvre et qui pour moi est inépuisable. Ce livre s'intitule « Une mort si douce ». À la suite d'une chute dans son appartement, Françoise, la mère de Simone et d'Hélène, est hospitalisée. Simone raconte l'angoisse, la force de la sororité, la dégradation de l'état de sa mère, son courage également, devant l'inéluctable. La fille prend aussi conscience de l'inachevé dans la vie de sa mère, de la façon dont elle a été, parce que femme, contrainte à jouer des rôles sans véritablement s'épanouir. Ce récit, dénué de toute fioriture, vous touche droit au cœur. Non, aucune mort, même si elle est naturelle, ne peut être douce. L'écriture peut-elle conjurer l'absence ? En tout cas, elle permet d'énoncer la révolte. Une forme de mélancolie, métissée d'un parfum de désenchantement, commence à envahir son œuvre. Dans tout conte fait, elle esquisse un bilan de sa vie. L'heure des contes commencerait-elle à sonner ? Elle soutiendra mai 68 sans véritablement s'y impliquer, contrairement à Sartre, et s'engagera dès 70 aux côtés de la gauche prolétarienne, juridiquement et financièrement. Des photos d'elle, souriante et amusée, la montrent dans les rues de Paris vendant à la criée la cause du peuple. Avec Sartre, elle est la plus vieille au milieu de ces jeunes étudiants qui la regardent d'un air émerveillé. Vieille, elle, du moment comme elle le dit que sa tête marche et qu'elle peut continuer à écrire, le reste n'est pas drôle mais pas important. Ce qui l'est, par contre, c'est la manière dont la société stigmatise, invisibilise, infériorise ses vieux. Elle considère que c'est un problème politique majeur et elle a raison. Son livre, La vieillesse, publié en 1972, lui vaudra un abondant courrier, très émouvant. Preuve, s'il en fallait, que Beauvoir pressent, anticipe les grands problèmes de société avant qu'ils ne surgissent dans l'opinion publique. Ce qui la tente, c'est la démystification et aussi parler de soi à partir de soi.
C'est en partant de tout un faisceau d'idées sur la vieillesse. Il y a des questions que j'avais commencé à me poser dès la fin de La force des choses également, puisque finalement la vieillesse, j'en approche, et tous mes amis en approchent, et j'ai même des amis qui sont plus âgés que moi, qui vraiment sont déjà, ont déjà abordé cette période de leur vie. Mais il y a aussi l'énorme scandale auquel je suis très sensible, de la manière dont les vieux sont traités dans notre société aujourd'hui, parce que ce sont vraiment les parias de cette société, comme d'ailleurs aussi de la société américaine. Et ici, en France, on voit, si on va, je ne sais pas moi, faire son marché, on voit des pauvres vieilles femmes qui sont là en train de ramasser des morceaux, des bouts de laitue, des bouts de ragaton de pomme, n'importe quoi, parce qu'elles n'ont vraiment pas de quoi, au jour le jour, vivre et même simplement manger. Alors, il y a ça, il y a la misère matérielle, il y a la solitude aussi, la misère morale de tous ces vieux. Et c'est tout ça que j'ai voulu dénoncer. Et d'une manière plus générale, qu'est-ce que c'est pas seulement que la vieillesse ? Mais le vieillissement et le changement au cours des différents stades de la vie. Et au fond, c'est une mise en question de la condition humaine tout entière à travers la dernière étape qui est la vieillesse.
On ne naît pas vieille, on le devient. Ce sont surtout les autres qui vous voient comme vieille, ce n'est pas vous. Dans la droite ligne du deuxième sexe, tant par la méthode adoptée que par l'ampleur du sujet, la vieillesse est à la fois une recherche, un constat et une analyse. L'âge est une donnée, et pourtant, selon son sexe et sa classe sociale, elle n'est pas vécue de la même façon. Ce sont ces inégalités qu'il faut combattre, en dénonçant les mythes, les mensonges, les silences qui entourent ce versant de la condition humaine. Le sort fait au vieillard est un scandale. La vieillesse est un sujet honteux et un sujet interdit. C'est pour cela que j'ai écrit ces pages, dit-elle. L'ouvrage ne s'est pas démodé, loin s'en faut. Dans notre société où le jeunisme règne et où les vieux sont considérés comme improductifs. Elle a à l'époque 60 ans et toujours autant d'énergie, même si elle se classe elle-même dans « L'âge de discrétion », titre d'un de ses livres. Elle n'est pas encore une vieille dame, mais elle sent qu'elle s'assagit. Elle continue à voyager en compagnie de Sylvie Lebon, avec qui elle partage sa vie et conserve le goût d'écrire. Pressent-elle les années difficiles qu'il lui faudra traverser avec un Sartre de plus en plus déclinant, de plus en plus malade et qui l'ignore, un Sartre entouré de personnes que n'affectionne pas Beauvoir, un Sartre qui subit attaques successives et hémorragies oculaires et dont elle s'occupe en permanence. Elle-même dira à la fin de La Force des choses qu'elle avait été flouée. Le terme n'a pas plu, et ce sentiment de défaite devant la vie a été jugé élitiste et désagréable. Flouée par qui ? Par elle-même, par les autres, ou par sa relation avec Jean-Paul Sartre, puisque lui-même vit son propre déclin, et elle ne peut ni s'y opposer, ni même le protéger. Sa santé s'en ressent. À la mort de Sartre, en 1980, sur les photos, elle apparaît si fluette, si fragile, si perdue. 8 jours plus tard, elle sera hospitalisée pour une double pneumonie. Il y a l'expression qu'on emploie souvent quand on est jeune, « avoir la vie devant soi ». Beauvoir sait qu'une vie, ce n'est ni devant ni derrière, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qui passe. Pourquoi publie-t-elle la cérémonie des adieux ainsi que sa correspondance avec Sartre, qui provoqueront beaucoup de polémiques et de débats? Encore une fois, pour continuer sa mission, dire sa vérité sur les 10 dernières années avec Sartre et ainsi lui rester fidèle au-delà de sa propre disparition. Considérée par certains comme un règlement de compte et jugée comme procès-verbal de la dégradation inéluctable du grand homme, ce texte est aussi une réflexion de plus en plus lucide sur ce qui obsède Beauvoir depuis l'adolescence, la mort. Chacun porte la mort en soi comme le fruit son noyau, disait Rilke. Beauvoir ajoute « Sartre a eu le déclin et la mort qu'appelait sa vie et c'est pourquoi, peut-être, il les a si calmement acceptés. » Après l'avoir furtivement observé dans un café de Saint-Germain-des-Prés, j'ai eu la chance de manifester à ses côtés dans plusieurs cortèges féministes. J'ai même eu le privilège d'assister à des réunions où elle était invitée à prendre la parole. Elle a été de tous les combats pour les femmes et jusqu'au bout. Nous étions toutes, malgré la camaraderie qui régnait entre nous et le côté joyeux et turbulent, très intimidées par elle et elle aussi, manifestement. Beauvoir, ce n'était pas la copine avec qui on rigole, mais celle dont on lisait et relisait les livres et avec qui on a cheminé la vie durant. Simone de Beauvoir, je le suis pour les autres, pas pour moi, a-t-elle dit à la fin de sa vie. Tant elle était toujours dans cette ardeur de la recherche de soi-même. Aujourd'hui, elle est devenue une classique. Celles et ceux qui n'ont pas encore lu Beauvoir la liront le jour de ses funérailles, suivie par une foule émue. Les kiosques affichaient une photo d'elle prise par Brassailles, avec cette phrase d'Elisabeth Badinter : « Femme, vous lui devez tout. » Oui, 40 années après sa disparition, nous lui devons tout. Son féminisme, c'est la liberté pour toutes les femmes. Sa philosophie permet de rendre notre monde plus habitable. Femmes d'exception, un podcast de Laure Adler, réalisé par Séverine Cassard, documenté par Laura Dumez, coordination Fanny Beauhuon, prise de son Guillaume Roux, au mixage Basile Beaucaire. Femmes d'exception est un podcast original de France Inter.